Vous avez suivi, je pense, dans la presse cette semaine qu'il avait été découvert, révélé, un manuscrit chrétien du IIIe siècle, peut-être. Alors, il ne s'agit peut-être que d'un faux habile, comme assez souvent, finalement, dans ce genre de choses. Mais puisque ce manuscrit fait parler Jésus en disant qu'il aurait une femme et qu'il habitait avec elle, ce manuscrit, finalement, a un peu relancé le débat sur le célibat de Jésus. Débat qui comprend en fait plusieurs questions. La première question concerne l'homme historique, Jésus de Nazareth. A-t-il été marié ou non ? Est-ce que l'on nous cache quelque chose, comme le disent un certain nombre de romans à sensation ou de films ? Si cette première question est débattue, finalement, c'est que Jésus n'est pas seulement une personne parmi d'autres, parmi les 100 milliards d'individus peut-être qui ont vécu sur cette planète, mais que Jésus est aussi pour nous le sauveur ultime de l'humanité et le type même de l'humain véritable. Et ainsi cette question de savoir si Jésus a été marié ou non, cette question toute simple finalement, et finalement d'intérêt limité, elle nous ouvre à deux questions bien plus brûlantes, d'où d'ailleurs les débats théologiques. La deuxième question donc concerne les conséquences que cela pourrait avoir sur le salut que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Et la troisième question concerne la vie humaine en ce monde. Selon Dieu, vaudrait-il mieux être marié ou célibataire ? Car finalement, le fond de la question de débat autour de ça, c'est cela. Alors pour creuser, pour instruire le dossier, je vous propose de nous faire accompagner par quatre passages bibliques. Alors d'abord, dans le livre de la Genèse, au chapitre 1, les versets 25 à 28. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles du sol selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit, faisons l'humain à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Hommes et femmes, il les créa, Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, soumettez-la. Dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et tout animal qui rampe sur la terre. Ensuite, je voudrais vous lire un joli petit psaume, le psaume 128, qui est un des psaumes des montées, qui permet de méditer dans cette méditation, de monter vers Dieu ou d'accompagner notre pèlerinage à Jérusalem, ce qui est un peu la même chose. Heureux quiconque cherche l'Éternel et marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères et ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de la table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui cherche l'Éternel. L'Éternel te bénira de Sion et tu contempleras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Tu verras les fils de tes fils. Que la paix soit sur Israël. Alors je continue à tourner les pages de notre gros livre et j'arrive à Matthieu 12, dans l'Évangile selon Matthieu, donc au chapitre 12, à partir du verset 46. C'est Jésus qui est en train de prêcher. Et nous dit l'Évangile, comme Jésus parlait encore à la foule, sa mère, ses frères se tenaient dehors et cherchaient à lui parler. Quelqu'un lui dit, « Ta mère et tes frères se tiennent dehors et cherchent à te parler. » Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, « Qui est ma mère ? Qui sont mes frères ?» Puis il étendit la main sur ses disciples et il dit, « Voici ma mère, voici mes frères. En effet, quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère. » Et ma sœur, et ma mère. Et enfin, je voudrais vous lire dans la deuxième lettre de l'apôtre Paul aux Corinthiens, au chapitre 11, les versets 2 et 3. L'apôtre Paul nous dit, je suis jaloux à votre sujet d'une jalousie de Dieu. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter au Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par la ruse, je crains bien que vos pensées ne se corrompent et ne s'écartent de la simplicité et de la pureté à l'égard du Christ. Ô Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Et je vous propose, pour commencer à laisser résonner ces textes en nous et ces questions en nous, je vous propose de chanter dans le psautier français le psaume 36, les strophes 1 et 2 qui évoquent cette fidélité de Dieu qui remplit les cieux et qui nous accompagne chacun d'entre nous. Psaume 36, les strophes 1 et 2. Dieu de Jésus-Christ, tu viens vers nous dans la nouveauté et nous allons vers toi avec nos habitudes. Tu viens vers nous dans la vérité et nous allons vers toi avec nos rêves, nos illusions. Tu viens vers nous dans la sainteté et nous allons vers toi avec notre banalité de nos jours, de nos journées quotidiennes. Donne-nous la joie de découvrir l'incroyable beauté de cette vie quand Christ nous accompagne. Il nous conduit vers toi pour y vivre dans la joie de l'esprit, l'amour qui défie les siècles des siècles. Nous sommes attachés, c'est le moins qu'on puisse dire, à la personne et à la vie de l'homme, Jésus de Nazareth. Et donc nous serions assez curieux de savoir sa vie, s'il est marié, de connaître sa façon d'être, est-ce qu'il est plutôt du soir et du matin, est-ce qu'il petit-déjeune, comment il fait pour récupérer de la fatigue de la journée, je ne sais pas quoi. Alors sur ce plan, les évangiles nous laissent sur notre faim. Ils se concentrent sur ce que Jésus a apporté sur le plan du salut, sur sa foi. Ils se concentrent donc finalement sur sa fonction de Christ. Ce qui est bien normal, car finalement, c'est cela qui d'abord nous concerne, nous qui n'avons pas vécu à son époque et dans sa région. Alors, il est évidemment impossible d'avoir une biographie précise et absolument sûre du personnage historique qu'est Jésus, mais ce n'est pas parce qu'il est impossible d'avoir une certitude à 100% que l'on ne sait rien du tout sur cette question. Il est possible, comme pour tout fait historique, finalement, d'évaluer la vraisemblance de chacune des hypothèses au gré des progrès dans la connaissance des sources plus ou moins anciennes et plus ou moins sérieuses dont nous disposons. Alors pour Jésus, nous n'avons pas rien du tout, nous connaissons un peu l'époque, nous avons quelques documents sur sa vie sans personne. Il n'y a aucun document, en fait, des deux premiers siècles qui nous dit si Jésus a été marié ou s'il est resté célibataire, avec enfant ou non. Les premiers documents qui parlent un peu de cela datent finalement du IIIe siècle. Si ce manuscrit du IIIe siècle était authentique, bon, ça ne changerait pas énormément de choses. La possibilité du fait que Jésus ait été marié ne serait seulement qu'un tout petit peu plus grande si on évalue cette possibilité d'une hypothèse, ce serait peut-être quelques petits pourcents de plus. Car, bon, le témoignage du IIIe siècle est tardif, et comme je vous le disais, ça peut être simplement des théories sur l'anthropologie, sur la théologie qui poussent à donner ce genre de fait sur la vie de l'homme, Jésus. Ce qui reste le plus important, finalement, pour évaluer la possibilité que Jésus ait été marié ou non, c'est plutôt les mœurs de l'époque. Sur la question du mariage ou du célibat, il existait à l'époque où vivait Jésus deux sensibilités pour qui cette question était en fait extrêmement importante. Les Esséniens, que nous connaissons mieux avec d'autres manuscrits, ceux-là certainement authentiques, étaient en quelque sorte, on pourrait dire aujourd'hui, des moines bénédictins de la stricte observance, ça ne rigolait pas du tout. Ils pratiquaient le célibat et un certain ascétisme. Jean-Baptiste pourrait avoir appartenu à cette sensibilité, mais apparemment pas Jésus, puisque sa pratique est loin d'être ascétique et coupée des autres pour essayer d'avoir une vie très pure. Il est sans cesse critiqué parce qu'il mange et qu'il boit trop. Il est critiqué parce qu'il fraternise avec des personnes à la moralité, à la religion, très douteuses. Et Jésus, oui, il suit de façon tout à fait libérale les préceptes religieux en vigueur, offensant même, c'est pour dire, la loi sur le respect du Shabbat. Les Esséniens, donc, ils prônaient le célibat, mais pour l'immense majorité des Juifs de l'époque, à l'époque de Jésus, le mariage était quasiment obligatoire, en fait. On sait que par le Talmud, on sait que c'était une honte pour quelqu'un de ne pas être marié dès 18 ans, ou en tout cas, je veux dire, dans la vingtaine. Et le Talmud ajoute, texte biblique à l'appui, en particulier le texte de la Genèse que je vous ai lu tout à l'heure, que l'on n'est pas vraiment un être humain si l'on n'est pas marié, que l'on est privé de toute joie, de toute bénédiction, de toute révélation de Dieu et de toute paix. Même si le Talmud, bon, force un peu le trait, c'est le genre littéraire de cet ouvrage, un célibataire non essénien devait être très très rare à l'époque. Et effectivement, on le voit par l'apôtre Paul, qui lui était célibataire, il trouve le besoin de s'en expliquer, de se justifier par la situation particulière qu'était l'époque qu'il pensait vivre comme étant la fin du temps, des temps, le royaume de Dieu devant arriver dans les quelques mois, quelques jours qui venaient. Il est donc plutôt vraisemblable que Jésus ait été marié. C'est l'hypothèse, à mon avis, la plus plausible. Pourquoi ne l'aurait-il pas été ? Il n'y a aucune raison pour que cela nous choque, de toute façon. il aurait vécu ainsi cette relation mystérieuse et complexe que constitue le couple. Mais encore une fois, ce n'est qu'une possibilité dont la vraisemblance ne s'appuie que sur une statistique tout à fait estimée. Donc, ce n'est pas loin d'être une certitude. Par ailleurs, nous n'avons que quelques textes du 3e, 4e siècle pour nous appuyer dans notre réflexion. Clément d'Alexandrie qui aurait dit que Jésus était célibataire, ou l'évangile de Philippe au contraire, qui dit que Marie-Madeleine était la compagne de Jésus, ce qui est repris par les romans, les bandes dessinées, les films, et peut-être donc par ce fragment de petit bout de papyrus révélé cette semaine par une digne professeure de la faculté de théologie d'Harvard et qui pourrait laisser penser que Jésus avait une femme. Bon, mais les évangiles ne nous en disent absolument rien, pas un mot. Alors est-ce que les évangiles nous cacheraient quelque chose, comme le disent les romans à sensation ? Oui, ils nous cachent ça, car les évangélistes connaissaient forcément la réponse, puisque ça a été écrit une génération, peut-être une génération et demie, deux générations pour la dernière couche rédactionnelle des évangiles. Ils connaissaient sûrement la réponse à cette question du célibat ou du mariage de Jésus, puisque cette question, comme je vous le disais tout à l'heure, était importante, plus importante encore à l'époque que maintenant. Donc, ce silence, ce secret est lourd de sens. Et il nous permet de répondre facilement à notre deuxième question, bien plus importante pour nous que celle de la vie privée de l'homme Jésus, car finalement, ça le regarde. Quelle importance pour notre salut que Jésus ait été marié ou non ? Eh bien, la réponse est facile. Ça n'a aucune importance. Si ça avait la moindre importance que ce soit, les évangiles nous en auraient touché un petit mot, certainement au moins au détour d'un petit verset. Eh bien non. D'autant plus que, comme nous venons de voir, aussi bien pour les Esséniens que pour les autres juifs, ils faisaient toute une histoire de cette question d'être marié ou d'être célibataire, d'avoir des enfants ou pas d'enfants, signe de la bénédiction ou non de Dieu. Le silence unanime des quatre évangiles sur cette question du célibat et sur la situation personnelle de Jésus est sûrement voulu. L'évangile nous propose une troisième voie originale. Cela veut dire précisément que le fait d'être marié ou d'être célibataire, d'avoir des enfants ou non, n'a aucune influence du point de vue du salut. Ce n'est pas un signe de bénédiction de Dieu. On n'est pas plus béni, on n'est pas plus saint, on n'est pas plus proche de Dieu parce qu'on serait marié, qu'on aurait trouvé l'âme sœur, ou qu'on désespère de la trouver, qu'on ait des enfants, ou qu'on n'arrive pas à en avoir, ou qu'on ne veuille pas en avoir. Pour Jésus, la question essentielle est ailleurs. La question, c'est la même pour tous, pour les mariés, pour les célibataires, pour les veufs, les divorcés, les couples stériles et ceux qui ont 12 enfants. La question, c'est de savoir comment on vit cela et de le vivre avec Dieu. Pourtant, si l'on regarde mieux ce que dit l'Évangile, nous pouvons savoir qu'en fait, le Christ était fiancé, nous pouvons même savoir quel est le nom de la fiancée du Christ, et nous pouvons même avoir facilement un portrait de cette personne qui est fiancée au Christ, en nous regardant dans le miroir, comme le dit l'apôtre Paul, cette fiancée, c'est nous, chacun de nous. C'est ce que dit l'Évangile aussi, par exemple, dans cette parabole que nous avons entendue ici dimanche dernier, la parabole des 10 vierges, où l'époux qui vient, eh bien c'est le Christ, cette présence de Dieu, cette parole de Dieu qui s'incarne en Jésus-Christ. C'est ce que nous dit l'apôtre Paul quand il nous dit, dans le passage que je vous ai lu, « Je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Et donc l'Évangile déplace l'enjeu dans le domaine spirituel, et il nous libère des moralismes pour que nous puissions ensuite tracer notre propre chemin d'une façon singulière, en sincérité. Quelle que soit notre situation, l'Évangile nous appelle donc à être la fiancée du Christ, une vierge pure, fiancée au Christ. Et il nous appelle par ailleurs, comme c'est pour ça que je vous ai lu ce texte de l'Évangile tout à l'heure, il nous appelle aussi à être son frère et sa sœur, et même à être sa mère. Toutes ces images dans leur diversité nous éclairent sur le salut que Dieu nous donne en Christ, et il nous en donne finalement un peu le mode d'emploi. Être frère ou sœur du Christ, c'est se laisser enfanter par Dieu comme son enfant bien-aimé, comme Christ était fils de Dieu par une grâce. Eh bien, cette grâce nous est donnée également, mais aussi dans l'écoute de la parole de Dieu, en la laissant nous activer, nous transformer, nous créer et porter, que nous puissions ainsi porter notre fruit en notre temps, comme dit le psaume 1. Être mère du Christ, c'est se laisser féconder par cette dynamique qu'est Dieu, dynamique d'évolution, pour que du Christ puisse naître en nous et que nous ayons de plus en plus quelque chose de cette qualité de fidélité, d'espérance et de bienveillance que l'on voit d'une manière éclatante en Jésus de Nazareth. Mais peut-être que la plus belle de ces images, finalement, est celle des fiançailles entre le Christ et nous-mêmes, individuellement. Oui, nous sommes connus et reconnus par Dieu en Christ, nous sommes aimés et nous sommes choisis. Dieu est amoureux de chacun d'entre nous, au singulier, comme Roméo l'est de Juliette. Alors qu'aurions-nous à craindre ? Aucun de nos défauts ne lui sera odieux, aucune de nos faiblesses et de nos manques ne le laissera en repos. Il court déjà pour nous chercher, nous soigner, nous porter, nous aider, nous nourrir, nous enrichir. Nul chantage à craindre, nul examen, nulle épreuve, rien de négatif ne peut venir de cet époux puisqu'il nous aime. Nous ne savons donc pas si l'homme Jésus était marié, mais le Christ, si, est marié. Il nous aime, ou plutôt il nous aime et il nous est fiancé. Et il ne tient qu'à nous de l'épouser, en fait, car pour une alliance comme ça, il faut qu'il y ait l'aller et le retour. Et il y a le risque, bien entendu, que Dieu reste en Christ comme un amoureux contrit, finalement. Mais il ne cesserait d'aimer, bien sûr. Alors que ceux qui sont mariés en ce monde n'aient aucune crainte, évidemment, car épouser le Christ se situe à tout autre niveau, bien sûr. Et ils peuvent épouser le Christ quand même, et ce n'est pas un appel à devenir, voilà, des moines épousant le Christ dans une union mystique. C'est une union mystique, c'est une union de l'intelligence, c'est une union de la foi, mais nous pouvons, voilà, épouser le Christ de diverses façons, finalement, mais ça n'empêche pas d'être marié en ce monde, bien sûr. Ce n'est pas en concurrence avec l'amour des autres. Alors comment est-ce qu'on peut épouser le Christ? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Eh bien, je crois qu'on peut déjà, et c'est déjà formidable, l'épouser comme on épouse une cause, si vous voulez, comme on dit. C'est-à-dire que l'on prend l'évangile du Christ comme notre raison de vivre personnelle, comme voilà, quelque chose qui nous anime. Et c'est, je crois, déjà pas une si mauvaise idée, car il y a dans les paroles, dans les actes de Jésus, quelque chose d'extraordinaire, en fait. Des choses qui méritent bien d'inspirer notre existence, que l'on soit par ailleurs marié ou non, bien entendu. Mais épouser le Christ, c'est bien plus encore que ça. Ça peut être que ça, et c'est déjà formidable, mais c'est plus que ça. Quand on est marié, on partage le quotidien de sa vie, on partage la vaisselle, les vacances, voilà. Donc la foi, je crois que c'est aussi et d'abord, à travers cette image, une question de vie quotidienne. C'est choisir de vivre les petites comme les grandes choses de sa vie en les partageant en confiance avec une personne devant qui finalement nous sommes nus, c'est-à-dire il n'y a pas, quand on est marié, il n'y a plus de masque en se disant je vais faire semblant de ceci, cela. On peut avoir cette sincérité qu'est la confiance dans l'amour de l'autre. Eh bien, c'est cela qui permet de partager nos joies, nos regrets, nos hontes et ce que nous sommes en vérité avec le Christ. Dans la foi, en pensant à lui, et puis par la réflexion et par la prière. Et ça, c'est vraiment, je crois, quelque chose qui nous permet d'avancer vers cet idéal et grâce à cette dynamique de vie qu'est Dieu. Mais épouser le Christ, c'est plus que cela encore. Car quand on est marié, on peut espérer, comme le dit le psaume 128, avoir des enfants. Et ces enfants, c'est un signe de la bénédiction de Dieu. Alors quand l'Évangile finalement spiritualise ce genre de texte, il dit que ce n'est pas parce qu'un couple serait stérile ou qu'on ne serait pas marié qu'on serait moins béni de Dieu, mais selon l'Évangile, le don de Dieu qu'est la fécondité de notre vie est donné de la même façon à ceux qui ont des enfants et ceux qui n'en ont pas, aux mariés, aux célibataires. Peut-être aurons-nous 12 enfants en chair et en os, le Christ nous accompagnera et par lui ce sera un projet magnifique. Mais peut-être n'aurons-nous ni conjoint ni enfant selon la chair, le Christ nous accompagnera et il fera que notre vie sera féconde autrement finalement, d'une fécondité telle que ce que nous aurons fait, peut-être une seule toute petite chose avec une seule personne, va grandir, va nous survivre même et fera encore du bien dans cette génération, dans la suivante, dans la suivante, dans la suivante. Nous aurons de toute façon une vie vraiment bénie par Dieu et nos enfants, c'est-à-dire ce que nous lançons dans le monde comme source de vie, comme vivant et source de vie, sera béni par Dieu. Et donc le salut est ainsi, ce n'est pas seulement une belle idée ou des valeurs que nous épousons, c'est plutôt comme une vie que nous épousons, une vie qui nous rend d'être capables de donner la vie, ce qui est absolument extraordinaire, et c'est en cela que nous sommes créés à l'image de Dieu. Alors selon Dieu, serait-il mieux pour une personne d'être mariée ou célibataire? Eh bien en nous montrant que la question du salut est tout à fait indépendante du fait que nous soyons mariés ou non, selon la chair, l'Évangile nous propose ainsi une relecture spirituelle de ce fameux verset que les maîtres du Talmud utilisaient pour justifier le mariage obligatoire. Dieu créa l'être humain à son image, il le créa homme et femme. Dieu les bénit et leur dit « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, dominez-la ». Alors il est possible de bâtir plusieurs conceptions de l'humain à partir de ce texte. Je ne peux même pas compter le nombre de personnes que j'ai rencontrées qui ont été blessées, meurtries par une anthropologie qui se limite à une lecture de ce texte à la lettre. Oui, un couple formé par un homme et une femme qui ont des enfants est un beau projet béni par Dieu, mais dès lors que l'on interprète ce passage de la Bible comme en disant que le plan de Dieu se limiterait finalement à ce modèle-là de vie sur terre, eh bien tous ceux qui sont seuls ou qui sont stériles risquent de se sentir en échec personnel ou bien de penser que Dieu les aurait oubliés finalement. Et souvent je reçois des mails, vous verrez sur ceux que j'ai mis en ligne, des gens qui sont vraiment, oui, meurtris dans leur foi, dans leur vie personnelle, par ce modèle qu'ils sentent finalement s'imposer à eux comme « je dois trouver l'âme sœur, je dois avoir des enfants, je dois avoir une famille réussie ». Cela provoque finalement de lourds dégâts humains. Certains vont donc s'inventer une vocation à vivre en couple ou à avoir des enfants, alors que finalement un autre chemin aurait pu être bien meilleur pour eux personnellement. Et donc cette anthropologie qui lit ce passage de la Genèse à la lettre est à mon avis une anthropologie cruelle et fausse. L'Évangile nous propose en fait une autre anthropologie, car Jésus n'est pas seulement pour nous une personne historique, il est aussi l'homme avec un grand H fondant une anthropologie chrétienne finalement, c'est-à-dire une conception de la personne humaine idéale. L'homme que Dieu espère, l'humain normal, c'est le Christ. Et cela oriente la lecture du verset de la création de l'humain dans la Genèse. Alors nous ne savons pas si Jésus a été marié ou non, s'il a eu des enfants ou non. C'est que le critère pour définir l'humain normal, béni par Dieu, selon le plan de Dieu, ne comprend pas ces critères-là. Ils appartiennent à la vocation de chacun, à peut-être l'espérance de chacun, à la sensibilité de chacun, au choix de chacun. La fécondité dont il est question dans cette mission que nous donne la Genèse de se multiplier peut s'accomplir de toute façon, à travers tous les actes, toute petite parole, tout geste qui augmente la vie, qui l'approfondit, qui l'élève, qui l'embellit. Tout ce qui renforce la fidélité, ce qui donne de l'espérance, tout ce qui donne un amour vrai, tout ce qui fait grandir, qui bâtit la réconciliation, la paix entre des humains ou entre les humains et Dieu, selon les circonstances de notre vie, selon nos choix personnels, selon notre personnalité, tout cela est une vraie fécondité. Alors la lecture traditionnelle à la lettre disait « Dieu créa l'être humain, homme et femme ». Alors l'obligation de fonder un couple et de faire des enfants, les évangiles, par contre, ne nous interdisent pas d'être célibataires, mais plutôt nous invitent à ne pas être solitaires, en fait. La vie du Christ nous invite à ne pas nous enfermer dans des schémas étroits, ni pour notre vie, ni pour notre vocation, à ne pas nous enfermer dans une tour d'ivoire, ne pas se laisser solitaire dans notre démarche dans ce monde, notre démarche vers les autres, ni en essayant d'imposer que tous les autres nous rejoignent dans notre Église, dans notre façon de voir, dans notre théologie, dans nos valeurs. Ce texte, qui raconte la création de l'humain dans sa diversité, nous dit que cette diversité extraordinaire qui existe dans l'humanité, elle est voulue par Dieu. Il l'a bénie pour que nous puissions vivre cette diversité et qu'elle soit féconde. Oui, parfois, notre prochain peut nous sembler un extraterrestre, si étrange et si différent que peut l'être les hommes aux yeux d'une femme et les femmes pour n'importe quel homme qui reste toujours un extraterrestre venant d'Arcturus ou d'Andromède. Et pourtant, quand nous sommes unis au Christ comme par un mariage d'amour, de fidélité, de fécondité, alors nous voyons les autres, oui, si différents et si semblables en fait, comme des frères et sœurs en Christ. Et si ce texte nous appelle à dominer la terre, nous voyons en Christ que ce n'est pas par la force, mais pour que ce qui est en nous de meilleur et de spirituel puisse gouverner nos autres dimensions humaines, ces forces profondes qui nous viennent de l'aube de notre évolution et qui nous font plus être frères et sœurs du sanglier que du Christ vivant. Amen.